Là finissent les conseils que j'ai à vous donner et la relation de mon premier voyage auprès de Denis. Maintenant, je vais montrer à quiconque s'en inquiète que mon second voyage n'était ni téméraire ni imprudent. Les premiers temps de mon séjour en Sicile s'écoulèrent, comme je vous l'ai dit, plus haut. Alors je fis tous mes efforts pour engager Denis à me laisser partir. Et nous convînmes que, quand la paix serait faite, car alors la guerre tourmentait la Sicile, et quand il aurait raffermi son pouvoir, il rappellerait Dion et moi auprès de lui. Il voulait que Dion regardât son éloignement, non pas comme un exil, mais comme un simple voyage. Je promis de revenir à ces conditions. Quand la paix fut conclue, Denis me rappela. Mais, en pressant mon retour, il priait Dion de différer le sien d'une année. Dion me conjura, m'ordonna même, de partir sans délai, car le bruit était venu de Sicile que Denis s'était enflammé de nouveau d'un amour merveilleux pour la philosophie. Et, à cette nouvelle, Dion me pressait de ne point retarder mon départ. Je savais bien que la philosophie cause souvent aux jeunes gens de ces sortes de passions. Je crus plus prudent de n'écouter ni Dion ni Denis, et les mécontentai tous deux en leur répondant que j'étais trop vieux, et que d'ailleurs on n'avait point observé les conventions. Il paraît qu'à cette époque, Architas se rendit auprès de Denis, car, avant mon départ, je lui avais procuré à lui, ainsi qu'à plusieurs autres philosophes tarentins, l'amitié et l'hospitalité de Denis. Il y avait aussi à Syracuse des hommes qui avaient quelquefois entendu Dion, et d'autres qui avaient quelques connaissances philosophiques. Il semble que ces gens-là essayèrent de discuter sur ces matières avec Denis, comme s'il eût bien entendu tous mes principes. Lui, qui ne manquait pas de pénétration et était rempli d'amour-propre, trouva quelque plaisir à ces entretiens et craignit de paraître n'avoir point compris ce que je lui disais quand j'étais auprès de lui. De là le désir de mieux connaître ma philosophie, et l'ambition enflamma ce désir. J'ai rapporté plus haut les causes qui l'avaient empêché de profiter de mes leçons à mon premier voyage. Aussi, lorsqu'après mon heureux retour dans ma patrie, je refusais pour la seconde fois de me rendre auprès de lui, comme vous le savez, son amour-propre lui fit craindre que mon refus n'eût l'air du mépris. Après l'expérience que j'avais faite de son naturel, de ses dispositions et de ses habitudes. Il faut dire la vérité et ensuite dédaigner ceux qui, après tout ce qui s'est passé, mépriseraient ma philosophie et loueraient la sagesse du tyran. Denis me fit, pour la troisième fois, des instances et m'envoya une galère afin de faciliter mon voyage avec Archidème, qu'il savait être celui des Siciliens que j'estimais le plus, un des amis d'Architas, et qui était accompagné de plusieurs autres Siciliens de distinction. Ils me parlèrent tous avec la même admiration du zèle extraordinaire de Denis pour la philosophie. Enfin, il m'envoya de sa main une lettre fort longue et fort adroite, car il connaissait mon amitié pour Dion, et n'ignorait pas que celui-ci avait le plus grand désir de me voir embarquer pour Syracuse. Il avait profité de ces circonstances dans sa lettre qui commençait ainsi. « Denis à Platon. » Venaient ensuite les compliments d'usage et ces mots. « Si tu te rends à mes vœux et si tu viens bientôt en Sicile, les affaires de Dion s'arrangeront à ton gré. Je suis persuadé que tes demandes seront raisonnables et je te les accorderai. Mais si tu ne viens pas, tu n'obtiendras jamais rien pour ton ami, ni pour sa personne, ni pour tout ce qui peut le regarder. » Voilà ce qu'il me disait, et bien d'autres choses encore qu'il serait trop long et hors de propos de vous rapporter. Je reçus aussi d'autres lettres d'Architas et des philosophes de Tarente, qui louaient fort le zèle de Denis pour la philosophie. Ils ajoutaient qu'en refusant de venir, j'exposerais à succomber sous les efforts de la calomnie l'amitié que j'avais fait naître entre eux et Denis. Amitié qui, sous le rapport politique, n'était pas d'un médiocre intérêt. Telles étaient les sollicitations qui m'arrivèrent. D'une part, j'étais attiré par mes amis de Sicile et d'Italie, et de l'autre, mes amis d'Athènes m'en chassaient, pour ainsi dire à force d'instance. J'avais encore, pour me décider, la même raison que la première fois, c'est-à-dire qu'il ne fallait trahir ni Dion, ni mes amis et mes hôtes de Tarente. D'ailleurs, moi-même, je ne voyais rien d'étonnant à ce qu'un jeune homme rempli d'heureuses dispositions, après avoir d'abord repoussé la philosophie, finît par l'aimer. Il fallait mettre dans tout son jour quel parti Denis voulait prendre, ne pas abandonner cette occasion, et ne pas m'exposer aux reproches que j'aurais si justement mérités s'il était en effet tel qu'on le disait. Ainsi justifié à mes propres yeux, je m'embarquais, mais avec des craintes et de funestes appréhensions. Je me rendis donc une troisième fois en Sicile sous la conduite de Jupiter Sauveur. Cependant, après Dieu, c'est à Denis que je dois rendre grâce de mon salut. Il a résisté à ceux qui voulaient me perdre et a conservé vis-à-vis de moi quelque pudeur. Quand je fus arrivé auprès de lui, la première chose que je crus devoir faire fut de m'assurer si réellement il avait de l'amour pour la philosophie, ou si le bruit qui en avait couru à Athènes était sans fondement. Il y a une excellente méthode pour faire cette expérience. Quand on a affaire à des tyrans, et surtout à des tyrans imbus de fausses doctrines, comme l'était Denis, à ce que j'avais compris dès mon arrivée, il faut lui montrer tout ce qu'est la philosophie, quels travaux exige, et quelles peines elle donne. Après quoi, s'il aime la philosophie sincèrement, s'il est digne de la connaître, et pour cela il faut avoir une âme presque divine, il admire la route qu'on lui trace. Il croit qu'il faut la poursuivre sans relâche, et qu'autrement on est indigne de vivre. Puis, s'y précipitant avec ardeur, il entraîne après lui son guide même, et ne s'arrête pas avant d'être parvenu au terme ou au moins à un point assez avancé pour atteindre désormais le but sans autre guide que lui-même. Dans cette disposition, quelles que soient les situations où un tel homme se trouve, il règle sa vie sur les principes de la philosophie. Il s'habitue à un régime qui conserve ses facultés, sa mémoire et sa raison, et prend en horreur toute autre conduite. Mais ceux qui ne sont pas véritablement philosophes, et qui, semblables à ceux dont le soleil a bruni le corps, n'ont pour ainsi dire qu'une couleur de philosophie, quand ils entrevoient tant de sciences à acquérir, tant de travaux, un régime, un ordre si sévère, une telle carrière leur paraît trop difficile, impossible même à parcourir, et ils n'ont pas même la force de la commencer. Quelques-uns s'imaginent bientôt avoir tout suffisamment entendu et qu'ils n'ont plus besoin de nouvelles connaissances. C'est là l'épreuve la plus sûre et la plus décisive à laquelle on puisse soumettre les hommes amis des plaisirs et incapables de travailler. Après cet essai, un homme ne peut accuser que lui, et jamais son maître, de l'impuissance où il est de faire ce que la chose exige. Ce fut la méthode que j'employai avec Denis, et je n'eus pas même besoin avec lui de la pousser jusqu'au bout. Il croyait avoir appris les choses les plus importantes des philosophes qu'il avait écoutés, et j'ai su depuis qu'il avait dans la suite écrit tout ce qu'il avait entendu alors, en le donnant comme une œuvre qui lui était propre, et non le résultat des leçons qu'il avait reçues. Cependant, je ne sais rien de certain là-dessus, mais je sais très positivement qu'il a paru d'autres écrits sur le même sujet, dont les auteurs ne se comprennent point eux-mêmes. Pour ceux qui ont écrit ou écriront ce qu'ils croient être mes véritables principes, qu'ils prétendent les avoir appris de moi-même ou d'autres, ou même les avoir découverts par leurs propres efforts, je déclare qu'à mon avis, ils n'en peuvent savoir un mot. Je n'ai jamais rien écrit et je n'écrirai jamais rien sur ces matières. Cette science ne s'enseigne pas comme les autres avec des mots. Mais, après un long commerce, une vie passée ensemble dans la méditation de ces mêmes choses, elle jaillit tout à coup comme une étincelle et devient pour l'âme un aliment qui la soutient à lui seul, sans autre secours. Je sais bien que mes écrits ou mes paroles ne seraient pas sans mérite. S'ils étaient mauvais, j'en aurais un grand chagrin. si j'avais cru qu'il était bon de livrer cette science au peuple par mes écrits ou par mes paroles, qu'aurais-je pu faire de mieux dans ma vie que d'écrire une chose si utile aux hommes et de faire connaître à tous les merveilles de la nature? Mais je crois que de tels enseignements ne conviennent qu'au petit nombre d'hommes qui, sur de premières indications, savent eux-mêmes découvrir la vérité. Quant aux autres, on ne ferait que leur inspirer un fâcheux mépris, ou les remplir de la vaine et superbe confiance qu'ils ont acquis les plus sublimes connaissances. Je veux m'arrêter davantage sur ce sujet, et ce que je viens de vous dire vous paraîtra plus clair. Il y a en effet une raison qui réprime la témérité de ceux qui veulent écrire sur quelqu'une de ces matières. Cette raison, je l'ai souvent exposée, à ce qu'il me semble. Il faut la répéter, encore. Il y a dans tout être trois choses qui sont les conditions de la science. En quatrième lieu, vient la science elle-même. Et en cinquième lieu, il faut mettre ce qu'il s'agit de connaître, la vérité. La première chose est le nom, la seconde, la définition, la troisième, l'image. La science est la quatrième. Si on veut comprendre ce que je viens de dire, il n'y a qu'à choisir un exemple. Il servira pour tout le reste. Prenons le cercle. D'abord, il a un nom, celui-même que je viens de prononcer. Puis il a une définition, composée de noms et de verbes. En effet, ce dont les extrémités sont également distantes du centre, telle est la définition de ce qu'on appelle sphère, circonférence, cercle. Mais ce cercle est encore un dessin qu'on efface, une figure matérielle qui se brise. Tandis que le cercle lui-même, auquel tout cela se rapporte, ne souffre pourtant rien de tout cela, parce qu'il en est essentiellement différent. Vient ensuite la science, l'intelligence, l'opinion vraie sur ce que nous venons de dire. Considérée collectivement, voilà un nouvel élément qui n'est ni dans les noms, ni dans les figures des corps, mais dans les âmes. D'où il est clair que sa nature diffère de celle du cercle même et des trois choses dont nous avons parlé. De ces quatre éléments, l'intelligence est celui qui, par ses ressemblances et son affinité naturelle, se rapproche le plus du cinquième. Les autres en diffèrent beaucoup plus. On peut faire les mêmes observations sur les lignes droites ou courbes, sur les couleurs, sur le bon, le beau, le juste, sur les objets que l'homme fait, ou sur les corps naturels, comme le feu, l'eau et tant d'autres, sur tout animal, sur toute qualité de l'âme, sur les actions et les passions en général. Si l'on ne possède parfaitement ces quatre premiers éléments, on n'aura jamais la connaissance exacte du cinquième. De plus, l'homme n'est pas moins ambitieux de connaître les qualités des choses que leur existence à travers l'insuffisance de la raison. C'est cette même insuffisance qui empêchera toujours un homme sensé d'avoir la témérité d'ordonner ici ses pensées en une théorie, et encore en une théorie inflexible, comme cela peut avoir lieu pour des images sensibles. Mais revenons aux figures dont nous parlions. Chacun des cercles dessinés ou tournés, dont on se sert dans la pratique, est plein de contradictions avec le cinquième élément. Car dans toutes ces parties, on retrouve la ligne droite. Or, le cercle véritable ne peut avoir en lui-même, ni en petite ni en grande quantité, rien de contraire à sa nature. Nous disons aussi que le nom de ces figures n'est nullement invariable, que rien n'empêche de nommer droit ce que nous appelons sphérique, et sphérique ce que nous appelons droit, et que ce changement, une fois fait en sens contraire, de l'usage actuel. Le nom nouveau ne serait pas moins fixe que le premier. Il faut en dire autant de la définition. Elle ne peut rien avoir d'absolument invariable, puisqu'elle est composée de noms et de verbes très variables. Il y a donc mille preuves pour une que chacun des quatre éléments est fort incertain. mais la plus frappante, c'est que des deux choses que nous venons de distinguer, l'être et les qualités, quand l'âme cherche à connaître l'être et non les qualités, nos quatre éléments ne lui offrent en théorie et en réalité que ce qu'elle ne cherche point, c'est-à-dire ce qui, tombant aisément sous les contradictions des sens, des mots et des images, ne remplit l'esprit de tout homme que de doute et d'obscurité. Aussi, dans les choses pour lesquelles notre éducation ne nous a malheureusement pas donné l'habitude de rechercher la vérité, et où nous nous contentons des premières apparences, nous ne semblons pas ridicules les uns aux autres parce que nous sommes toujours capables de discuter et de réfuter ces quatre principes. Mais quand nous exigeons qu'on raisonne sur le cinquième et qu'on le prouve, l'homme capable de réfuter n'a qu'à le vouloir pour vaincre et faire croire aux auditeurs que celui qui expose ses doctrines dans ses discours, ses écrits ou ses conversations ne sait absolument rien des choses qu'il entreprend de dire ou d'écrire. Car on ignore quelquefois que ce n'est pas l'esprit de l'écrivain ou de l'orateur qu'on réfute, mais le vice inné des quatre principes dont nous parlions. Un raisonnement exact, appuyé sur eux tous, et qui conduit et ramène à chacun d'eux, est à peine capable de produire la science. Et pour cela, il faut que les choses soient naturellement bien disposées, et qu'elles tombent dans un esprit bien disposé lui-même. Mais ceux qui ont naturellement de mauvaises dispositions pour les sciences et la vertu, et l'âme de bien des hommes est dans ce triste état, ceux-là ne sauraient voir même avec les yeux de l'inquiet. Note 7. En un mot, quand un homme n'a aucune affinité avec la chose dont il s'agit, ni la pénétration, ni la mémoire n'y feront rien, car rien ne vient sur un sol étranger. Aussi ceux qui n'ont ni affinité, ni rapport avec le juste et tout ce qui est bien, quelle que soit la promptitude de leur esprit, la facilité de leur mémoire, pas plus que ceux chez qui cette affinité avec le beau et le bien s'allie à un esprit lent et à une mémoire rebelle, ne parviendront jamais à connaître toute la vérité sur la vertu et le vice. Car il faut connaître l'un et l'autre. Et c'est avec beaucoup de temps et de peine qu'on peut acquérir la double science de ce qu'il y a de vrai et de ce qu'il y a de faux dans tout être, comme j'ai dit en commençant. C'est quand on a bien examiné, en les éclairant les uns par les autres, les noms et les définitions et les sensations de toute espèce, dans des discussions paisibles où l'envie n'aigrit ni les demandes ni les réponses. C'est alors seulement que la lumière de la science et de l'intelligence se répand sur les objets et nous guide vers la perfection que la nature humaine peut atteindre. Concluons que tout homme sérieusement occupé de choses aussi sérieuses doit se garder de les traiter dans des écrits destinés au public pour exciter l'envie et se jeter dans l'embarras. Et tout cela doit nous prouver, quand il nous tombe entre les mains le livre d'un législateur sur les lois ou de tout autre écrivain sur d'autres matières, que l'auteur n'a pas parlé sérieusement s'il est lui-même un homme sérieux, et qu'il s'est renfermé dans la plus belle partie de lui-même. S'il avait mis par écrit ce qu'il avait de sérieux dans l'âme, c'est alors qu'il faudrait dire « ce ne sont pas les dieux, ce sont les hommes qui lui ont ôté la raison ». Si l'on a bien compris cette explication et ses développements, on verra que Denis, ou tout autre plus ou moins habile qui aura écrit sur les principes et les merveilles de la nature, n'a jamais rien appris ni rien su des choses qu'il a écrites. Au moins, c'est mon avis. Sans cela, il aurait, comme moi, respecté ces mystères, et ne les aurait pas témérairement livrés à l'ignorance et au ridicule. Et il n'a pas fait cet écrit seulement pour le soulagement de la mémoire. En effet, une fois que l'esprit s'est bien pénétré de ces vérités, il n'y a pas de danger que la mémoire les laisse échapper, car il n'y a rien de plus court. il a peut-être été guidé par une honteuse ambition qui lui a inspiré le dessein de présenter cet ouvrage comme le fruit de ses propres méditations, ou le résultat des leçons qu'il avait reçues de moi, et dont il n'était pas digne, puisqu'il voulait m'en dérober la gloire. Il faudrait donc que son instruction eût été achevée dans la seule leçon que je lui ai donnée. Et Jupiter sait quelle leçon, comme dirait un Thébain. Note 8. Je ne lui ai parlé de philosophie qu'une seule fois, de la manière que je vous ai rapportée, et depuis je n'ai jamais renouvelé cette épreuve. Si quelqu'un est curieux de savoir pourquoi nous ne sommes revenus sur ce sujet, ni le lendemain, ni le surlendemain, ni dans aucun temps, il faut examiner si Denis, après m'avoir une seule fois entendu, s'est cru suffisamment instruit, et s'il l'était en effet, soit par ses propres méditations, soit par les leçons d'autres philosophes, ou s'il a regardé ce que je lui disais comme frivole, ou bien, si ce n'était pas plutôt par ce troisième motif qu'il trouva cette science au-dessus de ses forces, et ne se crut pas capable de vivre suivant les règles de la tempérance et de la vertu. S'il prétend que je lui parlais de choses frivoles, il y a beaucoup de témoins, et de témoins dont l'autorité a plus de poids que celle de Denis, qui affirmeront le contraire. S'il a lui-même découvert ou appris cette science, il l'a donc jugée digne de servir à l'éducation d'une âme libre. Et alors n'est-il pas étrange qu'il ait si légèrement traité l'homme qui pouvait lui servir de maître et de guide? Et comment l'a-t-il traité? Je vais vous le dire. Jusqu'alors, il avait laissé à Dion la possession et la jouissance de ses biens. Mais bientôt, comme s'il avait oublié la lettre que j'avais reçue de lui, il défendit aux administrateurs de ses biens d'en envoyer les revenus à Dion dans le Péloponnèse. Il prétendait qu'il n'appartenait point à Dion, mais à son fils, et que la loi le déclarait tuteur de cet enfant comme son oncle. Voilà ce qui se passa jusqu'à cette époque. Ces événements durent m'éclairer sur les dispositions de Denis pour la philosophie, et je pouvais librement manifester mon mécontentement. Car on était en été, la navigation était ouverte, et il me sembla que j'avais moins à me plaindre de Denis que de moi-même et de ceux qui m'avaient forcé de passer une troisième fois le détroit de Scylla et de revoir la funeste Charybde. Note 9. Je résolus donc de dire à Denis qu'il m'était impossible de rester tant que Dion serait l'objet d'outrages aussi injustes. Mais il chercha à m'apaiser et me conjura de rester. Il ne voulait pas que j'allasse sitôt porter moi-même la nouvelle de ce qui se passait. Cependant, voyant qu'il ne pouvait me persuader, il me dit qu'il se chargeait lui-même des préparatifs de mon départ. Pour moi, je voulais m'embarquer sur un bâtiment de transport, résolu de partir à tout prix. Car je n'avais donné à Denis aucun sujet de se plaindre de moi, et j'avais beaucoup à me plaindre de lui. Mais Denis, me voyant bien décidé à ne pas rester, usa du subterfuge suivant pour me retenir. Le lendemain du jour où je lui avais déclaré ma résolution, il vint me trouver et me tint ce discours spécieux. « L'affaire de Dion, me dit-il, est la seule cause de nos divisions. Terminons-la. Voici ce que je ferai pour lui par amitié pour toi. Je lui rends ses biens, mais il restera dans le Péloponnèse, non comme un exilé, mais avec la liberté de revenir à Syracuse quand le moment de son retour aura été convenu entre lui, moi et vous, ses amis, sous la condition toutefois qu'il n'entreprendra rien contre moi. Vous m'en serez garant, toi, tes amis et ceux des parents de Dion qui se trouvent ici. Dion vous donnera de son côté des garanties. Quant à son argent que je lui renverrai, il le mettra en dépôt dans le Péloponnèse et à Athènes, entre les mains de ceux que vous désignerez. Il n'en aura que les intérêts, et ne pourra toucher au fond qu'avec votre agrément, car je ne compte pas assez sur sa fidélité et sa justice envers moi pour laisser à sa disposition de pareilles ressources. J'ai plus de confiance en toi et les tiens. Vois donc si ces arrangements te conviennent. Tu resterais encore cette année avec moi, et la saison venue, tu partiras avec la fortune de Dion. Quant à lui, Je ne doute pas qu'il ne te soit très reconnaissant de ce service. » Je fus indigné de ces propositions. Cependant, je lui dis que je voulais y réfléchir et que je lui rendrais ma réponse le lendemain. Il y consentit. Et quand je me mis à réfléchir à toute cette affaire, je me trouvais dans un grand embarras. D'abord, me disais-je, si Denis me trompe et que je m'éloigne, ne va-t-il pas écrire à Dion, lui et tous ses amis, qu'il était plein de bonne volonté, mais que j'ai refusé d'en profiter et que je me soucie peu de ses intérêts? Et si d'un autre côté il veut que je reste, sans même donner l'ordre formel au patron de navire? Il n'a qu'à leur faire entendre que je m'éloigne contre son gré. Quel est le pilote qui consentira à me faire sortir de ce palais? Car, pour comble de malheur, je logeais dans les jardins mêmes qui entourent le palais, et le gardien de la porte ne m'aurait pas laissé sortir sans une autorisation expresse du roi. Si je reste encore un an, je pourrais instruire Dion de ma situation et de ma conduite. Et si Denis exécute ses promesses, je n'aurai point à me repentir de ce sacrifice, car la fortune de Dion peut bien, sans exagération, s'élever à 100 talents. Mais si les choses se terminent comme elles se termineront selon toute apparence, je serai bien embarrassé. Cependant, il faut peut-être souffrir encore une année et mettre en plein jour les intrigues de Denis par l'événement même. Ces réflexions faites, je déclarai le lendemain à Denis que j'étais déterminé à rester. J'ajoutai qu'il ne devait pas me regarder comme l'arbitre unique des affaires de Dion, mais le prévenir en même temps que moi de notre traité, lui demander s'il lui convenait et s'il avait quelque autre demande à faire. Il faut, disais-je encore, faire parvenir ces nouvelles à Dion le plus promptement possible, et en attendant de ne rien changer à l'état de ses affaires. Voilà à peu près notre conversation et les conventions auxquelles nous nous arrêtâmes. Bientôt après, les vaisseaux s'éloignèrent. Il ne m'aurait plus été possible de m'embarquer. C'est alors seulement que Denis, par une sorte de réminiscence, vint me dire que des biens de Dion, la moitié seulement lui appartenaient, et que l'autre devait rester à son fils. Il ajouta qu'il ferait opérer le partage, qu'on vendrait la moitié des biens, qu'il me chargerait d'en faire passer le prix à Dion, et que pour l'autre moitié on la laisserait à son fils, que c'était ce qu'il y avait de plus juste à faire. Frappé de ces paroles, je compris bien qu'il serait ridicule de perdre un mot de plus sur cette affaire. Toutefois, je dis qu'il fallait attendre la réponse de Dion et lui mander ce nouveau changement. Mais bientôt après, Denis se mit à vendre sans pudeur les biens de Dion et régla à sa fantaisie le mode de la vente, le prix et les acheteurs, sans daigner m'en parler. Pour moi, je me tus désormais sur les affaires de Dion. J'étais convaincu que je n'y pouvais plus rien. Tels sont les services que j'ai pu rendre auprès de Denis à la philosophie et à mes amis. Dès ce moment, voici comment nous vécûmes, lui et moi. Je portais sans cesse mes regards au dehors comme un oiseau impatient de s'échapper. Lui employait tous les moyens pour me retenir, sans me rien rendre de ce qui appartenait à Dion. Cependant, aux yeux de toute la Sicile, nous paraissions en bonne intelligence. Vers ce temps, Denis voulut diminuer la solde des vétérans, ce que n'avait jamais fait son père. Les soldats furieux se rassemblèrent en tumulte et protestèrent qu'ils ne le souffriraient pas. Denis, pour leur en imposer, fit fermer les portes de la citadelle. Mais ils se précipitèrent vers les murailles en poussant un cri de guerre à la manière des barbares. Denis en fut tellement effrayé qui leur accorda tout, et même augmenta la solde des Peltas qui s'étaient joints à eux. Tout d'un coup, le bruit se répandit qu'Héraclide était l'auteur de ce désordre. Héraclide, à cette nouvelle, se cacha. Denis s'efforça de le prendre, et ne pouvant y réussir, il fait venir Théodote dans ses jardins, où je me promenais alors par hasard. Je n'entendis point leur conversation, et je ne sais pas ce qu'ils ont dit. Je ne me rappelle que ce qu'a dit Théodote à Denis en ma présence. « Platon, me dit-il, j'engage Denis, si je lui amène ici Héraclide, pour qu'il se justifie des crimes qu'on lui reproche. Et s'il ne croit pas devoir lui permettre de rester en Sicile, à le laisser au moins se retirer avec sa femme et son fils dans le Péloponnèse, où il n'entreprendra rien contre Denis et jouira du revenu de ses biens. J'ai déjà écrit à Héraclide de venir ici, et je vais lui écrire de nouveau. Soit donc qu'il se rende à ma première invitation, soit qu'il n'obéisse qu'à celle que je vais lui faire, je demande instamment à Denis qu'il ne soit fait aucun mal à Héraclide, ni dans l'intérieur de la ville, ni hors des murs, si on le prend. Mais seulement qu'on le fasse sortir du pays jusqu'à ce que le roi change de résolution. Veux-tu y consentir ? Ajouta-t-il en s'adressant au roi. J'y consens, répondit celui-ci, et quand il serait découvert dans ta propre maison, il ne lui arrivera pas d'autre mal. Mais le lendemain, Eurybe et Théodote, effrayés, accoururent chez moi dans un trouble extraordinaire. Et Théodote prenant la parole, « Platon, me dit-il, tu as été témoin des promesses que Denis m'a faites hier au sujet d'Héraclide. » « Sans doute, répondis-je. Eh bien, maintenant les satellites le cherchent de tous côtés pour le prendre. Et peut-être est-il près d'ici. Viens joindre tes efforts aux nôtres auprès de Denis. » Nous courûmes auprès de lui, mais, une fois en sa présence, Eurybe et Théodote fondirent en larmes et ne purent prononcer un mot. Je pris la parole. « Denis, lui dis-je, Eurybe et Théodote craignent que, contre ta promesse d'hier, tu ne maltraites Héraclide, qui paraît s'être montré près d'ici. » À ces mots, Denis entra en fureur et changea de couleur comme un homme hors de lui. Théodote tomba à ses genoux et, lui prenant une main qu'il arrosait de ses larmes, le conjura de ne pas commettre une pareille action. Je l'interrompis pour le consoler. « Rassure-toi, lui dis-je, Denis n'osera jamais manquer à une promesse qu'il nous a faite hier. »« Ah, toi ! » s'écria Denis en me lançant un regard de tyran. « Je ne t'ai rien promis du tout. »« J'atteste les dieux, répliquai-je. » Qu'hier tu nous as promis ce que Théodote te demande aujourd'hui, de ne pas poursuivre Héraclide. » Puis, lui tournant le dos, je me retirai. Denis n'en continua pas moins à chercher Héraclide. Mais Théodote le fit prévenir de ce qui se passait et l'engagea à fuir. Et quoi qu'on eût envoyé à sa poursuite Isias et une troupe de soldats, le malheureux parvint à leur échapper. Et, dans le court espace d'une journée, atteignit les frontières carthaginoises. Denis, qui désirait depuis longtemps retenir les biens de Dion, saisit avec empressement cette occasion de rompre avec moi. D'abord, il me renvoya de la citadelle sous prétexte que les femmes allaient célébrer dans le jardin où se trouvait mon logement un sacrifice de 10 jours et me dit d'aller demeurer chez Archidème. Pendant ce temps, Théodote m'engagea à venir chez lui, me témoigna beaucoup d'indignation de tout ce qui s'était passé et se plaignit amèrement de Denis. Le roi, apprenant que j'étais allé chez Théodote, saisit ce nouveau prétexte, qui n'avait pas plus de fondement que le premier, et me fit demander si j'étais allé chez Théodote sur son invitation. Je répondis que oui. « Sache donc, reprit l'envoyé, que le roi m'a ordonné de te dire que tu prenais un mauvais parti en embrassant les intérêts de Dion et de ses amis avec plus de chaleur que les siens. » Ce fut son dernier mot. Il ne me rappela jamais dans son palais, comme m'étant ouvertement déclaré l'ami de Théodote et d'Héraclide et son ennemi. Il comprenait d'ailleurs que je ne pouvais conserver aucune amitié pour lui quand tous les biens de Dion avaient été dissipés. J'habitais donc dorénavant hors de la citadelle, au milieu des soldats mercenaires. Bientôt je fus averti par quelques domestiques athéniens, mes compatriotes, qu'on m'avait noirci dans l'esprit des peltastes, et que quelques-uns d'entre eux avaient annoncé qu'ils me tueraient s'ils me rencontraient. Voici le moyen que je résolus d'employer pour me sauver. Je fis connaître ma position à Archytas et à mes autres amis de Tarente. Ceux-ci, sous le prétexte d'une ambassade, m'envoyèrent un vaisseau à 30 rames avec la misque, l'un d'eux, qui intercéda pour moi auprès de Denis en l'assurant que je n'avais qu'un seul désir, celui de m'en aller. Denis y consentit et me congédia en me donnant de quoi faire le voyage. Quant au bien de Dion, je ne renouvelai point mes réclamations et personne ne m'en parla. À mon arrivée dans le Péloponnèse, je trouvai Dion aux Jeux olympiques et lui racontai tout ce qui s'était passé. Alors, prenant Jupiter à témoin, il annonça à tous ses amis et à moi qu'il voulait tirer vengeance de Denis. D'abord pour m'avoir indignement traité quand j'étais son hôte, ce furent là et ses pensées et ses paroles, et aussi pour l'avoir lui-même injustement persécuté et banni. À ces mots, je lui dis qu'il pouvait bien engager ses amis à le seconder si cela leur convenait. Mais pour moi, lui dis-je, toi et tes amis m'avaient presque contraint de partager la table, la maison et les sacrifices de Denis. Et quoique la calomnie lui ait persuadé que je conspirais avec toi contre sa vie et sa tyrannie, il n'a point osé me tuer. D'ailleurs, je ne suis plus en âge de porter les armes pour qui que ce soit. Je réserve mes services pour le temps où la vertu vous rapprochera et vous inspirera le dessein de renouer votre ancienne amitié. Mais, tant que vous ne respirez que la haine, appelez-en d'autres pour s'associer à votre entreprise. Je parlais ainsi avec un amer dégoût de mon séjour et de mes mauvais succès en Italie. Je ne pus persuader Dion et les siens, et leur aveuglement fut la cause de tous les malheurs qui sont survenus. Malheurs qui ne seraient pas arrivés, autant qu'on peut juger des affaires humaines, si Denis eût rendu à Dion sa fortune, ou plutôt s'il se fût tout à fait réconcilié avec lui. Mes conseils et mon influence auraient aisément arrêté Dion, mais en se cherchant tous deux les armes à la main, ils n'ont fait qu'engendrer toutes sortes de maux. Cependant, Dion ne formait pas d'autres vœux que ceux que doit former tout homme raisonnable. S'il rêvait la puissance pour lui, pour ses amis, pour sa patrie, c'est qu'il croyait que pour être utile, il faut avoir le pouvoir et les honneurs, et qu'il faut être grand pour faire un grand bien. Ce n'est pas comme l'homme qui, pauvre, incapable de se gouverner lui-même et esclave du plaisir, ne cherche qu'à s'enrichir, trompe ses amis et l'État, trame des conspirations, fait massacrer les riches en les accusant de trahison, pille leurs biens et invite ses compagnons et ses complices à l'imiter pour éviter qu'un seul d'entre eux ne vienne lui reprocher sa misère. Il faut en dire autant de celui qui ne sait s'attirer l'estime de ses concitoyens par d'autres bienfaits que par des décrets qui distribuent à la populace la fortune des riches, ou qui, maître d'une ville puissante à laquelle sont soumises d'autres villes, dépouille injustement les plus petites pour enrichir la capitale. Non, jamais Dion, ni qui que ce soit, n'use volontairement de pareils moyens pour acquérir un pouvoir qui serait funeste à lui-même et à toute sa postérité. Il n'aspire qu'à donner à sa patrie une constitution et des lois bonnes et justes, sans exil ni échafaud. Telle a été la conduite de Dion. Résolu à souffrir l'injustice plutôt qu'à la commettre, mais se dérobant pourtant à s'en garantir, il a succombé au moment où il allait triompher de ses ennemis. Faut-il s'en étonner? L'homme juste, sage et prudent, est toujours en garde contre les méchants, mais il n'est pas extraordinaire qu'il lui arrive la même chose qu'au meilleur pilote. Celui-ci sait toujours prévoir la tempête, mais il ne peut calculer la violence extraordinaire et inattendue qui le submerge à l'improviste. Ce fut là le sort de Dion. Il savait que ses ennemis étaient corrompus et voulaient le perdre. Mais il n'avait pas prévu jusqu'où il porterait la barbarie, la perversité et l'avidité. C'est ce qui causa sa mort et couvrit de deuil la Sicile entière. Tels sont les conseils que je crois devoir vous donner. Il m'a semblé que je devais vous expliquer les motifs qui m'ont fait entreprendre mon second voyage en Sicile, à cause des événements singuliers et extraordinaires qui l'ont suivi. Si quelqu'un ajoute quelquefois à mes paroles et croit que j'ai eu de justes raisons de faire ce que j'ai fait, je suis content. Ce que j'ai dit suffit.